C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 30 avril et aujourd'hui nous allons parler des drones et de leur utilité dans le domaine de la surveillance des sites sensibles.
Des sites qui sont nombreux en France, usines, aéroports ou encore bases militaires et qui doivent être surveillés pour anticiper toute menace.
Pour en parler, nous recevons Johan Alaman, ingénieur en aéronautique et fondateur de DAE Systems, une entreprise spécialisée dans la conception de ces drones.
Mais avant ça, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Et on commence avec l'astronomie. Les trois taïkonautes, c'est comme ça qu'on appelle les astronautes chinois, viennent de rejoindre l'espace.
Oui, ils ont décollé jeudi dernier pour venir se fixer à la station spatiale Tiangong, la récente station chinoise achevée en 2022. Les trois hommes participent à la mission Shenzhou 18. Parmi eux, deux novices, Li Kong et Li Guangsu. Ils opèrent sous le commandement de Ye Guangfu, un pilote de chasse et taïkonaute qui effectue de son côté sa deuxième mission.
Et que viennent-ils faire dans la station Tiangong alors ?
Alors déjà, ils remplacent les membres de la mission Shenzhou 17, présents sur les lieux depuis octobre. Eux aussi restent 6 mois sur place et ils vont mener des expériences dans plusieurs domaines, ceux de la physique fondamentale en microgravité, de la science des matériaux spatiaux, ainsi que de la science de la vie spatiale, de la médecine spatiale et de la technologie spatiale. Ce travail va permettre à la Chine de mener son grand objectif, marcher sur la Lune d'ici 2030. On sait désormais qu'un cancer peut arriver sans que l'ADN ne soit modifié et c'est inédit.
Oui, parmi les causes des cancers, on connaissait l'âge ou les facteurs environnementaux comme le tabagisme. Et pour la première fois, une étude publiée dans Nature vient de montrer qu'un cancer peut survenir à cause d'une mutation des gènes mais sans modification de l'ADN. On appelle ça l'épigénétique, un phénomène qui explique d'ailleurs qu'un des deux jumeaux peut développer un cancer et pas l'autre.
Et qu'est-ce qui cause cette mutation de gènes ?
Lors d'une mutation, c'est la lecture des gènes qui devient alors incorrecte. Tout ça à cause de protéines avec des modifications chimiques anormales que l'on appelle des protéines méthylées. Ce sont ces protéines qui viennent se poser sur l'ADN et qui empêchent donc la bonne lecture des gènes, des changements génétiques qui peuvent apparaître soit pendant le stade embryonnaire, soit en réponse à des stimuli extérieurs, le bisphénol A ou les polluants éternels peuvent en être la cause. On reste sur le cancer, mais cette fois-ci, on parle de sa détection. La France développe un test pour dépister celui du poumon grâce à une prise de sang.
C'est en tout cas ce qu'explique Zohair Selmani, médecin au CHU de Besançon. Avec son collègue Alexis Auvert, elle a développé une méthode qui permet de trouver des marqueurs qui peuvent être analysables dans le sang. Et pour le moment, cela semble bien fonctionner puisque les tests effectués sur des patients atteints de la maladie ont permis de la détecter dans 95% des cas.
Et cette méthode pourrait s'étendre à d'autres maladies.
Oui, les chercheurs travaillent sur l'élargissement de la méthode à d'autres pathologies. Le CHU de Besançon explique qu'elle pourrait s'étendre à d'autres cancers comme celui du côlon, du pancréas, de la prostate ou encore des ovaires. Aujourd'hui, on peut manger du chocolat, mais pour combien de temps encore ?
Et c'est la question qu'on peut se poser puisque son avenir pourrait être menacé par un virus qui attaque déjà les cacaoyers africains depuis plusieurs dizaines d'années. Des pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire sont particulièrement touchés. Pour se donner un ordre d'idée, entre 1946 et 1948, plus de 254 millions de cacaoyers ont dû être abattus au Ghana. Depuis, la propagation de ce virus s'est un petit peu calmée, mais il reste bien actif.
Et qu'est-ce qu'on sait de ce virus ? D'où il vient ?
Alors, il s'appelle Swollen Shoot. Il se transmet très rapidement, notamment par des cochenilles. En sautant d'arbre en arbre, ces parasites multiplient le nombre de cacaoyers infectés. Les feuilles de ces arbres se teintent alors de rouge, les tiges gonflent, et les fèves de cacao finissent par pourrir sur le plant infecté. Et face à ce fléau, peu de solutions. Pour l'instant, on arrache et on replante pour éviter toute contamination, ce qui cause évidemment de nombreuses pertes. Et c'est une découverte étonnante. Non, les humains ne sont pas les seuls à rougir. Cela peut aussi arriver aux poules.
C'est ce que montre une étude de l'INRAE sur l'émotion chez les animaux. Les chercheurs se sont notamment penchés sur la race Sussex, une poule domestique. Ils en ont observé 6 durant 3 semaines dans différentes situations et grâce aux images récoltées, ils ont pu établir une conclusion sur leur rougissement.
Et quelle est-elle ?
Eh bien, comme pour l'homme, les poules rougissent en fonction de leur émotion. Un rougissement très léger lorsqu'elles sont en présence de nourriture appétissante. Un rougissement qui vire à l'écarlate lorsqu'elles vivent une expérience négatif comme par exemple la capture et une absence de rougissement quand elles vivent un moment calme.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Les sites sensibles sont nombreux en France, usines, aéroports ou encore bases militaires, d'où l'intérêt de les protéger pour anticiper toute menace. Pour cela, de nombreuses technologies se développent. Si on connaît les systèmes traditionnels comme les caméras de surveillance fixe, certaines entreprises innovent en mettant en place d'autres moyens.
C'est le cas de DAE Systems, une entreprise spécialisée dans la conception de drones employés dans le cadre de la surveillance de sites dits sensibles. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Johan Alamand. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir à l'antenne.
Vous êtes ingénieur en aéronautique et vous êtes donc le fondateur de DAE Systems. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée du projet ?
Bah écoutez, tout simplement, la suite d'études en mécatronique et systèmes embarqués dont je suis issu en tant qu'ingénieur. Donc on a élaboré plusieurs systèmes embarqués au sol, utilisés au sol, et puis on s'est donné comme idée d'utiliser notre passion qui est les drones et notre formation complémentaire de télépilote pour mettre en application ce qu'on crée dans les laboratoires, entre guillemets, et puis utiliser ces super vecteurs, super supports pour pouvoir étendre ce qu'on connaît aujourd'hui au sol, mais en vol.
Alors, comment est-ce que vous avez pu développer ce projet aussi d'un point de vue recherche ? Comment est-ce que vous avez été encadré ? Je suppose que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Comment est-ce que vous en êtes venu de l'idée jusqu'à la concrétisation de ce projet ?
Non, bah alors on a deux systèmes phares chez DAE Systems qui ont donné vie donc à cette société qui aujourd'hui mène des activités en tant qu'intégrateur drone. Donc les deux systèmes embarqués issus de ma formation d'ingénieur sur Caen, donc à l'ESIX, l'école d'ingénieurs des systèmes embarqués mécatroniques, donc un capteur fréquentiel et puis un capteur de détection de victimes d'avalanche, et par complément de formation donc en entrepreneuriat au sein de Pépite Normandie et puis dans le centre de Caen, avec demande d'incubation, nous avons souhaité aller plus loin avec ce qu'on a développé en projet tutoré à l'école et donner vie à tout ça à la suite des études, donc en créant DAE Systems, et ce qui avait pu se poursuivre également lors de projets extra société et à la suite donc de stages en entreprise tels que chez Airbus Hélicoptère.
Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes spécialisé dans la surveillance des sites dits sensibles, mais qu'est-ce qu'on entend par un site sensible ?
Sensible pour dans plusieurs approches, sensible au sens naturel. Aujourd'hui, on a des projets qui œuvrent pour des sites dits sensibles au niveau environnental, comme par exemple le projet Litterbank qui vise à étudier la mobilité des déchets dans l'estuaire de Seine et donc à suivre par drone les différentes berges que nous avons identifiées, pré-identifiées, où il y a des mobilisations de déchets plus ou moins importantes, mais également sites sensibles dans des sites industriels comme des sites Seveso et des sites qui sont également sensibles dans le sens où il peut y avoir des catastrophes naturelles comme les sites montagneux par exemple où nous avons donc ce système de détection de victimes d'avalanches que nous lançons en démonstration prochainement et que nous rendrons opérationnel d'ici fin d'année pour des premiers tests et un premier retour sur expérience.
Alors vous l'avez dit, vous intervenez sur plusieurs sites assez différents. Quelles sont les structures par exemple qui font appel à ce genre de service que vous proposer ?
Les sites sont, comme je disais, des sites industriels, donc essentiellement aujourd'hui, dû à l'acceptabilité des drones, on rencontre quand même des difficultés, même si ça tend à se démocratiser de plus en plus sur les sites sensibles, donc pour implémenter des drones qui feraient des rondes automatisées de surveillance. Donc aujourd'hui, nos systèmes sont assez bien déployés sur des zones, des champs libres, et puis en zone, j'allais dire, hostile, donc en forêt, par exemple avec les S10, où nous avons mené des expérimentations avec les S10 de l'Aude, et également en montagne, donc avec la Compagnie des Alpes, et puis d'autres stations de ski qui ont aujourd'hui des écoles de drones implémentées depuis peu et qui exploitent les drones aujourd'hui, et qui seront de potentiels clients pour utiliser nos systèmes embarqués et étendre donc ces supports à d'autres usages.
Et la confiance, ça s'établit comment entre les entreprises et votre structure ? C'est eux en général qui ont entendu parler de vous et qui font appel, ou c'est vous qui proposez vos services ?
Nous, en tant que, donc nous sommes quatre, hein, on est des ingénieurs principalement en aéronautique et système embarqué et puis technico-commercial. Donc on est très peu réseaux sociaux. On a notre site internet qui marche bien, mais essentiellement on marche beaucoup bouche à oreille. On est vraiment, j'ai courant à dire en fait, qu'on est vraiment une casquette d'intégrateur drone, et puis on fait de l'artisanat, hein, même si on va plus loin aujourd'hui dans des phases de pré-industrialisation et d'industrialisation derrière. C'est essentiellement du bouche à oreille et les typiquement les intégrateurs drones, les constructeurs de drones qui font appel à nous, bah, nous appellent en nous disant voilà, on a notre support, on souhaiterait intégrer telle caméra, tel système embarqué, faites-nous une application, le pont hardware, le pont software, et puis remonter toutes ces données-là sur une station avec une application ergonomique pour que l'utilisateur puisse utiliser tout le système, et nous on s'y met à la tâche. Donc c'est essentiellement au niveau comme cela que ça se passe avec les constructeurs de drones, et ensuite nous démarchons continuellement parce que on a pour ambition de rendre tant sur l'aviation légère où on a notre expertise et les drones, l'aérien accessible entre guillemets pour tous, c'est-à-dire que les drones tendent à être utiles non plus pour les grands industriels, les grands comptes ou les personnes qui ont plus de moyens, mais également pour les plus petits, les particuliers ou alors les associations, les institutionnels qui pourraient s'équiper de drones pour étendre leur capacité tous les jours. Donc on a vraiment cette démarche proactive de démontrer de nouvelles choses, d'essayer d'embarquer ce qu'on a l'habitude de voir de manière conventionnelle au sol mais en vol, et de montrer que le drone peut du coup rendre les choses plus agréables et plus rapides au quotidien.
Alors si on en vient au type de matériel qui est utilisé, quels sont les types de drones que vous employez et que vous mettez en place ?
Alors nous, on œuvre essentiellement sur les quadcoptères. Donc quadcoptères, des multirotors, donc des drones à rotor, pas des voilures fixes. Donc c'est des drones qui ont soit des quadcoptères, donc quatre rotors, ou des hexacoptères, octocoptères, mais des drones qui ont tendance à pouvoir se stabiliser, parce que pour revenir à l'essence même de DE Systèmes, nous créons des systèmes embarqués. Donc c'est un embarqué essentiellement prévu pour faire de la mesure. Au-delà du visuel, on n'est pas des caméramans ou des sociétés comme Sony de construire des caméras. On vient vraiment apporter des capteurs qui viennent récolter de la donnée, de collecter de la donnée sur le terrain pour la post-traiter et éventuellement l'analyser et la visualiser en temps réel. Les drones multirotors sont des bons vecteurs pour se stabiliser, prendre une mesure à un endroit donné, se rendre à des positions, suivre des objets et de plus en plus utiliser l'IA qui est aujourd'hui majoritaire et puis prépondérante dans plusieurs secteurs et dont celui des drones, pour pouvoir suivre des choses, détecter et puis anticiper, voire même mener à l'action pour les forces de l'ordre ou d'autres secteurs d'activité qui demandent des actions anticipées plus rapidement, quoi.
Vous parlez de l'IA sur la façon de fonctionner des drones, ça marche comment ?
Bah, tout simplement, nous avons créé un petit boîtier, donc aujourd'hui, dû à l'expérience qu'on a accumulée sur divers multirotors, on a développé un système comme un deuxième cerveau, un deuxième contrôleur de vol qui tend à être universalisé et qui permet aujourd'hui donc de collecter tout type d'informations en lien avec le constructeur. Donc nous avançons toujours en lien étroit avec le constructeur de pair, et permet de remonter tout type de données vers un système externe sur serveur et puis derrière sur un logiciel privé qu'on crée sur mesure en ligne, et donc pouvoir remonter toutes ces données là sur ces systèmes là et puis mener des actions sur le drone indépendamment du système prévu, même si nous gardons toujours la partie manuelle en fail safe pour pouvoir opérer et respecter la réglementation européenne en vigueur aujourd'hui.
Et sur le site de votre entreprise, vous parlez d'Internet des objets dans ce qui concerne la conception du drone. Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est lié à votre projet ? Qu'est-ce que ça désigne précisément ?
L'IoT, l'Internet des objets, nous, en faisant des systèmes embarqués, aujourd'hui, personne, tout le monde sait qu'on utilise au quotidien donc des objets connectés. Donc, au niveau des capteurs embarqués et de nous, dans cette démarche proactive qu'on a de créer des nouveaux systèmes pour étendre l'utilité des drones, on est obligé de connaître et de faire des systèmes qui sont connectés et qui détectent surtout les systèmes connectés. Donc, aujourd'hui, nous, on a une expertise dans le domaine fréquentiel, donc pour faire des capteurs de détection de fréquence, pour rechercher éventuellement des appareils, discuter avec des appareils à distance, dont dans le premier système qu'on a fait à l'issue à la création de DAE System, qui est un système de détection RFID active embarqué sur drone et qui permet de communiquer avec des objets au sol, au même titre qu'un portique à l'entrée d'un site industriel. Donc on vient badger avec notre badge et il y a une caméra de surveillance qui nous voit. Ben, aujourd'hui, on a pensé à un drone qui pourrait faire une ronde automatisée sur un site en embarquant ce système d'imagerie, donc une vidéosurveillance continuelle depuis le drone, et puis ce portique qui serait en fait sur le drone et pour avoir un drone tout en un qui permet de savoir qui est où sur un site industriel et puis détecter, discuter avec des objets de manière connectée.
Pour revenir sur le fonctionnement et l'utilisation du drone, qui est-ce qui va le piloter, ce drone? Est-ce qu'il peut y avoir déjà du pilotage automatique? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont habilitées à le faire? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent pour vous ou des gens qui travaillent pour l'entreprise qui utilise le drone?
Alors aujourd'hui, l'aspect de vecteurs autonomes est assez lointain, même si il y a des utilisations qui se concrétisent. La réglementation impose toujours d'avoir un télépilote au sol qui garde la mainmise sur le vecteur et pour une reprise manuelle à tout moment pour une sécurité, hein. Même pour programmer les missions autonomes, au départ on peut le préparer le préprogrammer, mais il y a toujours une opération qui doit être faite manuellement durant le vol et une surveillance continuelle pendant le vol. Donc nous rendons soit sur les sites industriels pour pouvoir faire décoller le drone et puis former avec un partenaire donc les clients à utiliser ce drone-là. Derrière l'aspect d'autonomie pour les actions et les déplacements, il y a des systèmes qui commencent à émerger avec des stations au sol. Nous menons aujourd'hui des expérimentations, donc c'est toujours dans des lieux dans des zones qui sont pas industrielles, dans des zones comme des forêts et notamment dans l'Aude, où les déplacements et les actions du drone se font de manière autonome, mais le client est formé par nous, un manuel utilisateur à chaque système que nous créons, et puis est formé pour la préparation de la mission, le suivi, donc doit être télépilote dans tous les cas, et la restitution de la mission avec les logs pour pouvoir analyser toujours la mission et garder un historique de ce qu'il s'est passé, parce que le drone peut avoir des anomalies, peut avoir des problèmes pendant le vol et il faut pouvoir les retracer.
Vous dites former, est-ce qu'il y a même un permis à la fin pour conduire ce drone ou c'est vraiment juste une formation?
Non, aujourd'hui, c'est vraiment une formation non applicative qu'on donne pour utiliser nos capteurs avec les vecteurs. Souvent, de plus en plus, donc aujourd'hui, on parlait de démocratisation des drones, c'est vrai, on y est, hein, on entend parler des drones assez souvent, de plus en plus, surtout cette année, c'est qui est assez impressionnant à voir, en tout cas de mon côté. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions ont déjà leurs propres drones, ont déjà des télépilotes et s'auto-forment. Donc nous, on vient vraiment donner un système, une plus-value en fait à ce support, parce que le support drone en tant que tel n'apporte rien, hein. C'est vraiment comme une voiture, on vient embarquer des choses dessus, mettre des systèmes pour pouvoir les rendre utiles. Donc nous, on donne ces systèmes qui rendent utiles les drones et on forme les clients à leur utilisation, mais les clients sont souvent déjà formés, ont déjà leur diplôme de télépilote, ce qui est au final la seule formation officielle à passer, et nous, c'est vraiment une formation d'utilisation.
On continue de parler de surveillance grâce au drone avec vous, Johan Alamand. Mais juste avant, on va faire une pause musicale et écouter Mode d'emploi de Jade. À tout de suite dans C'est pas faux.
Je me rappelle au bac de musique, j'avais chanté du Drake. J'ai eu 14, c'est une catastrophe. Tout le monde disait c'est bien, t'inquiète. Je trouvais ça bof. Bref, l'histoire de ma life, jamais être satisfaite. C'est pas que je suis ingrate, je veux juste viser plus haut. C'est ma façon de croire en ce que je vaux. Même si ça m'afflige, parfois un peu de vertige. Tu sais, parfois quand t'es tout en bas, t'oublies presque. Connais le mode d'emploi.
musique, mais son fond droit au cœur, c'est encore mieux que la psychologue. Morale de l'album, c'est j'ai pas trop le moral, mais s'il y a deux, trois personnes que j'essaie d'échapper. Donc tu peux coller une étiquette. Et en vrai c'est un atout. Puis si ils savent pas où mettre, bah ils ont qu'à mettre partout. Bon, c'est la fin de l'histoire, y'a pas d'ill-baker heureux. Merci, au revoir, j'ai fait de mon mieux.
C'était Mode d'emploi de Jade, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux et aujourd'hui nous sommes avec Johan Alamand pour parler de la surveillance des sites dits sensibles à l'aide de drones.
Et cette surveillance, alors comment est-ce qu'elle se déroule? Qu'est-ce qui est surveillé? Et est-ce que c'est une observation qui est permanente ou alors est-ce que vous employez ce genre de drone pour des risques précis?
Tout dépend des clients et des institutions qui ont besoin de ce système-là. Alors nous, le système de surveillance à des fins autonomes a quand même pour objectif initial d'avoir une surveillance qui est permanente, hein, sinon on rendrait pas la chose autonome, ça serait des interventions ponctuelles. Dans cet alignement là, on a essentiellement sur les sites sensibles, donc les sites industriels, des vols qui doivent être faits à répétition, surtout des vols. Quand on parle de surveillance, nous aujourd'hui, en ayant plus d'acceptabilité dans des zones hors espace industriel, des zones où plus cloisonnées, en forêt où il y a très peu de personnes, on est en scénario assez simplifié. On a des rondes qui visent à être permanentes, quotidiennes, où les personnes, ou avec un drone placé dans une station, dans un abri en centre de forêt, en poste de montagne, et puis vise à être donc le drone vise à être sorti assez quotidiennement pour pouvoir décoller de manière autonome et réaliser sa mission autonome, revenir à son point de départ et puis restituer les données que les télépilotes recherchent. Les interventions ponctuelles sont des interventions à visée de recherche, que nous menons aujourd'hui. On travaille beaucoup avec les universités, l'université de Nantes, l'université Gustave Eiffel, mais aussi avec le Mal de Seine, avec d'autres institutions sur les berges de la Seine pour pouvoir ponctuellement intervenir, récolter des données visuelles et également faire des relevés de terrain. De cartographie de terrain ou photogrammétrie pour pouvoir analyser l'évolution des sols et puis la mobilité des déchets à la longue.
Alors pour qu'on comprenne bien le processus qui est mis en place, une fois que le drone repère un problème, est-ce qu'il peut intervenir lui-même? Comment ça se passe entre le moment où il y a la détection du problème et l'intervention physique?
Tout dépend si le drone est déjà présent sur place ou pas, d'où l'intérêt de s'en équiper et de sensibiliser les clients et puis surtout les services de protection, que ce soit environnemental, des personnes, dans des stations de ski, dans des lieux sensibles à risque, en montagne ou en forêt. Si les drones sont déjà sur place et qu'une alerte est remontée par divers biais, hein, que ce soit un appel téléphonique sur un standard ou autre. Si le drone est déjà sur place, l'idée est qu'il connaît la zone, il a déjà des missions préprogrammées qu'on a étudiées avec les clients, les partenaires. Donc le drone est capable de scanner une zone prédéfinie et avec les capteurs qui vont bien, qu'on a pensé au préalable avec les clients, donc les capteurs qu'ils ont réellement besoin. Si on parle par exemple de recherche d'individus, on aura peut-être une caméra thermique qui sera montée sur le drone. Le drone étant déjà équipé, il y a une alerte qui se déclenche, une zone est déjà préprogrammée, le télépilote lance simplement la mission préprogrammée et le drone est capable de réaliser une ronde automatique et avec un télépilote et une autre personne à distance qui surveille simplement son écran pour trouver la personne perdue ou l'alerte, l'anomalie détectée.
Je reviens sur les dangers qui peuvent menacer les sites surveillés. Vous parliez déjà tout à l'heure des vols. Est-ce qu'il en existe d'autres qui font que vous, enfin que certaines entreprises ont recours aux drones?
D'autres menaces? Alors, on a des menaces aujourd'hui qui sont très avant-gardistes avec les drones. Donc, c'est des rondes perpétuelles pour pouvoir détecter et trouver plus rapidement que ce qu'on a l'habitude de voir par hélicoptère ou de manière cynophile ou alors par personne. Nous, d'autres systèmes qui sont pertinents aujourd'hui à développer sont des systèmes essentiellement de mesure, alors, soit des systèmes d'épandage hein, en agriculture qui se développent de plus en plus. Nous nous plaçons moins sur ce sujet-là, on laisse se démarcher de niche aux experts, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec le marché du drone. Non, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'au-delà de créer du système embarqué pour créer des nouveaux capteurs et détecter de nouvelles choses, aujourd'hui, le drone étant de plus en plus accepté, il va falloir penser, nous on y pense depuis un petit moment avec le côté hélicoptère et l'expertise aviation légère que nous avons, mais nous travaillons de plus en plus à savoir comment faire cohabiter le drone avec son espace aérien, avec les systèmes déjà présents au sol. Nous avons mené une étude l'année dernière sur l'aéroport de Caen, à titre d'exemple, au niveau fréquentiel, avec Cigelec, donc une école d'ingénieurs placée à Rouen, pour étudier les interférences possibles entre le drone et puis les sites dits sensibles comme les aéroports, hein, pour voir si le drone ne viendrait pas perturber l'aéroport, les systèmes connectés dans l'aéroport ou vice-versa. Donc voilà, vraiment plusieurs systèmes, soit pour de la mesure, soit pour la mesure concrète avec le drone, soit pour étudier ce que le drone pourrait avoir comme impact dans la société au travers de son utilisation, soit pour du système de sécurité, hein, nous travaillons aujourd'hui, nous avons un projet qui commence également au niveau recherche pour de la chute non létale de drones, donc avec un châssis que nous développons et qui sera breveté, pour faciliter la livraison par drone, par exemple, l'acceptabilité de la livraison par drone, et en cas de chute, toujours prévoir des systèmes de sécurité. Voilà, donc c'est assez divers, mais nous, avec notre casquette d'intégrateur et j'allais dire, de bureau d'ingénierie drone, en tant qu'ingénieur, on se doit de penser à tout ça.
Si on en vient à l'exemple de la menace d'intrusion industrielle, déjà en quoi ça consiste exactement et comment est-ce qu'on peut anticiper ce genre de risque?
En termes de menaces industrielles, bon, en termes de menaces industrielles, il y a quand même beaucoup de choses qui sont aujourd'hui en place au-delà de l'aspect drone. On a déjà beaucoup, on parlait d'objets connectés tout à l'heure, on a quand même beaucoup d'entrepôts, beaucoup de sites qui sont équipés, hein, au-delà des caméras de surveillance. Donc ce qui est recherché de plus en plus par les clients, c'est les angles morts. Les angles morts sur site, les angles morts, les lieux qui seraient pas couverts par les caméras fixes, ou qui auraient où il y aurait des portées limitées, les rondes du personnel qui seraient limitées sur des endroits qui sont assez étendus, voilà, derrière des bâtiments. Donc ce qui est aujourd'hui certain, c'est que le drone n'est pas une solution universelle, mais est vraiment une solution très complémentaire avec ce qui existe au sol, et elle doit être perçue comme telle, avec des rondes qui sont bien préprogrammées et qui permettent au final d'aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir en fait au sol, hein, avec les caméras ou votre système d'alarme, que le drone soit utile pour faire des rondes périmétriques par exemple, et puis surveiller des zones qui seraient difficiles d'accès, ou alors très contraintes en termes d'accessibilité piétonne.
Et le drone, alors vous parliez notamment de la détection des angles morts, mais globalement, plus globalement, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un système de surveillance plutôt classique?
Oh ben, le gros avantage, c'est d'être par les airs. Donc, le fait de voler a quand même beaucoup d'avantages, hein. On a quand même une visue, tout dépend de la hauteur de vol, hein. On est limité en termes de hauteur, d'altitude de vol. Donc, le drone, en volant quand même à 30 mètres, a quand même un angle de vision assez large et reste très complémentaire aux caméras de surveillance, hein, à titre d'exemple. Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un aéroport tel que l'aéroport Carpiquet sur Caen. Aujourd'hui, des ailerons ne sont réalisés souvent par des personnes en 4x4, hein, qui réalisent de manière régalienne des missions de surveillance, de contrôle périmétrique. Donc, le drone aujourd'hui, ce qui quand même requiert quand même un certain coût d'utilisation de matériel tel que le 4x4, etc., et puis de personnel aussi, hein, de mobilisation de temps. Donc, le drone, sa complémentarité, c'est qu'il serait capable de partir d'un endroit fixe sur l'aéroport à un certain moment pour pas perturber le trafic aérien et puis réaliser une ronde périmétrique d'un point A à un point B en suivant à l'extérieur avec de la caméra orientée sur les clôtures par exemple avec de l'intelligence artificielle qui pourrait peut-être détecter des inclusions, qui pourrait détecter des portails ouverts, la présence d'animaux, d'oiseaux ou d'autres anomalies qui pourraient être dangereuses pour le trafic aérien et c'est dans ce cas-là que le drone est vraiment complémentaire, quoi.
Et malgré tout, est-ce qu'il y a des limites au drone? Vous en exposiez déjà un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il ne peut aujourd'hui pas encore faire en matière de surveillance?
Alors, le drone aujourd'hui peut faire beaucoup, beaucoup de choses, tout dépend du vecteur qui est choisi, hein. On peut avoir des petits vecteurs comme des gros, hein. Petits vecteurs, ça va de 30 cm jusqu'à 1 mètre d'envergure, hein, et voire même plus gros. Aujourd'hui, les limitations du drone sont en fonction déjà du support que le client détient, donc en termes d'embarquer pour embarquer tel ou tel capteur. Et après, au niveau réglementaire, au niveau de l'aspect, on parlait d'autonomie, donc c'est quand même, il faut quand même qu'il y ait une personne et qu'il soit présente pour récupérer le drone de manière manuelle. Ensuite, au niveau des réglementations, aujourd'hui, on a la réglementation européenne, hein, qui entre en vigueur pour utiliser les drones. Donc il faut quand même avoir une formation pratique et théorique et il faut également déclarer les missions, donc bien savoir la mission qu'on va établir avec les drones, surtout si elle est quotidienne et permanente. On a des dérogations, des démarches de gestion des risques à établir et il faut toujours qu'on respecte les scénarios de vol. On a divers scénarios aujourd'hui qui existent pour voler avec un drone en fonction de l'environnement où l'on vole, du lieu et de la proximité qu'il a avec certains sites comme des aéroports par exemple. Et tout cela limite la distance de vol par rapport au télépilote, son point de décollage, sa hauteur de vol, ce qu'il peut filmer, hein, en termes de propriété de propriété aussi intellectuelle et puis de propriété aussi privée des personnes. Donc voilà, toutes sortes de limites que je ne vais pas forcément détailler ici, mais qui sont quand même à considérer si on veut aujourd'hui utiliser un drone dans les règles de l'art et sans pression, parce qu'utiliser un drone aussi, ça met beaucoup de pression pour l'utilisateur. Et quand on rajoute le système embarqué et connaître déjà l'utilisation, ça en rajoute d'autres. Donc une formation complémentaire d'utilisation est toujours la bienvenue.
Est-ce qu'il y a malgré tout des accidents qui sont inévitables malgré la présence du drone, notamment des risques d'accident liés au pilotage du drone et qui pourraient du coup mettre en péril la sécurité des sites?
Alors, tout système technologique n'est pas infaillible, ce serait utopique de le penser, hein, les systèmes qui sont de plus en plus matures. Il peut toujours y avoir, oui, on mène des fois des essais, notre pilote mène des essais dans des lieux qui sont assez complexes, hein, c'est quand on est en plein centre-ville ou même dans des événements. Hein, à titre d'exemple, nous avons été sélectionnés l'année dernière pour filmer au niveau du Paris Air Show le Salon du Bourget. Donc j'étais responsable vol de drone extérieur, donc beaucoup de contraintes en termes de zone de vol, donc demander l'autorisation à chaque entité, à chaque chalet, à chaque entreprise pour voler, se pas survoler le public. Quand on mène des actions manuelles, j'allais dire, l'erreur humaine est plus présente, donc on peut faire plus d'erreurs que l'aspect, qu'en toute autonomie du drone. Mais le drone autonome mal préparé, mal préprogrammé par l'utilisateur, peut aussi faire des erreurs. On utilise des cartes de suivi terrain des fois qui sont pas à jour, qui donc d'où l'importance de bien suivre sa machine et de maintenir à jour ses zones de vol. Mais il y a toujours un risque au niveau de la préparation et au niveau du vol manuel. Il est important que le télépilote reste s'encombre pas de beaucoup de systèmes embarqués. Donc nous, notre travail, c'est aussi en concevant ces systèmes de ne pas encombrer et que beaucoup de choses restent transparentes pour lui, pour qu'il se concentre toujours sur le débutage de borne.
Oui, donc l'intérêt de simplifier un maximum. Merci beaucoup Johan Alamand d'être venu à notre micro. On le rappelle, vous êtes ingénieur en aéronautique et vous êtes le fondateur de DAE Systèmes, une entreprise de conception de drones spécialisée dans la surveillance des sites dits sensibles. Bonne journée à vous.
Merci à vous, merci pour l'invitation.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Encore merci à Johan Alamand d'avoir accepté notre invitation. C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec l'université Interage qui organise lundi prochain une conférence sur l'histoire des antibiotiques. Animée par Florie Desriac, enseignante-chercheuse en microbiologie à l'université de Caen, elle reviendra sur l'impact de l'antibiorésistance sur notre société, mais aussi les stratégies d'innovation mises en place pour contrer cette antibiorésistance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site uia-caen.fr.
Et puis comme d'habitude, votre recommandation au documentaire zoom cette semaine sur les herbiers marins, ces immenses étendues de verdure qui tapissent nos océans sur plus de 300 000 kilomètres. Assainissement des eaux, régulation, protection contre les maladies, ils jouent un rôle essentiel dans notre écosystème. Les herbiers marins, précieuses sources de vie, c'est ce samedi à 22h30 sur Arte.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Lucas à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques instants. Rendez-vous avec Johan pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.